Je vais vous parler un petit peu effectivement de cet ouvrage que j'ai co-dirigé, mais c'est vrai qu'on est assez nombreux à avoir travaillé dessus. Il y a 11 textes et je crois que je pourrais même plus dire combien, le nombre de personnes exactes qui a travaillé sur le livre, parce que chaque texte est introduit et précédé par une petite introduction. Et par ailleurs, en fait, tout a été quand même assez artisanal, puisque la plupart des textes ont été traduits bénévolement, soit par des amis d'amis, l'éditeur des Prairies Ordinaires. On est un groupe assez nombreux à avoir travaillé sur ce livre. Alors peut-être que je vais commencer simplement par essayer d'expliquer quelle est l'origine de ce projet. Et donc je vais essayer de faire une brève présentation pour aussi laisser la place quand même aux questions. Donc à l'origine, effectivement, il y a eu plusieurs événements. Moi, j'ai commencé en fait à travailler sur la géographie critique pour ma thèse. Sur la géographie critique urbaine. Il y a quelques années, donc peut-être en 2010, j'ai commencé à me demander s'il y avait quelque chose comme une géographie engagée et où elle était dans ce cas-là. Bon, j'avais pas peut-être tous les éléments en main, mais cela dit, je fais de la géographie depuis quand même quelques années, je suis enseignante, j'avais quand même le sentiment d'avoir suivi un petit peu les débats géographiques et d'avoir assez peu d'informations sur ce qu'était la géographie engagée. Donc j'ai commencé d'ailleurs, enfin j'étais d'ailleurs, l'anecdote c'est que j'étais avec une des personnes qui a contribué au livre, Sarah McGian, qui a fait une introduction sur le multiculturalisme. Et à partir de là, j'ai commencé un travail de recherche. Donc moi je poursuis ma thèse en parallèle. Et dans le même temps, comme je me suis intéressée à tout ce qui pouvait être géographie critique ou géographie radicale, même si au début, je n'étais pas véritablement sûre du nom, il y a eu une année un peu particulière où David Harvey est venu en France. Donc c'était en 2011. Il a fait plusieurs. Il est venu à Paris, il a fait plusieurs conférences, notamment à Nanterre. Le hasard a fait que un de mes collègues de lycée devait faire un entretien avec lui pour une revue. Donc il m'a demandé si je le connaissais. J'ai dû lui dire que je travaillais plus ou moins sur la géographie radicale. Donc je me suis intégrée à l'entretien. J'ai rencontré à cette occasion Nicolas Vieille-Caze, qui donc est depuis plusieurs années fait un travail de traduction de David Harvey. Et en parallèle aussi, s'est mis en place un projet de traduction justement de David Harvey, Paris, capitale de la modernité, où j'ai aussi participé en tant que traductrice. J'ai rencontré à ce moment-là Mathieu Giroux, qui est l'autre coordinateur du livre. Et tout ça a fait une sorte de petite équipe et un projet de créer, en fait, de traduire les textes qui nous semblaient importants et qui n'avaient pas du tout été traduits. Alors, on s'est demandé justement comment on allait faire ça, parce qu'on n'était que deux. Comme vous l'avez compris, on avait assez peu de moyens en termes de traduction. Et donc, on s'est dit qu'on allait demander à des amis, ou à des géographes qui étaient spécialistes de certains thèmes, de nous dire en fait quels étaient les textes qu'ils utilisaient et dont ils n'avaient pas en fait la traduction et qu'ils utilisaient régulièrement. On leur a demandé de faire une sorte de choix, donc on a essayé de voir si évidemment nous, si en tant que directeur de l'ouvrage, on a essayé de faire en sorte que les textes se recoupent pas, mais finalement on a laissé quand même beaucoup de liberté. Je crois qu'on a pris à chaque fois le premier choix. Donc, quels étaient les textes les plus importants, ou alors des textes qui tenaient à cœur à l'un ou à l'autre. Et donc, on a fait une équipe comme ça d'une dizaine de personnes qui a essayé donc de choisir des textes. À partir de là, a commencé le long travail de traduction. L'idée, c'était aussi donc de faire une introduction un peu pédagogique pour chacun des textes. Pour essayer quand même de resituer le débat, parce qu'en fait, dans ce livre, il y a à la fois il y a beaucoup de géographes dits anglophones, mais en fait, dans ce terme anglophone, qui est un peu différent d'anglo-saxon, c'est donc ceux qui utilisent le plus souvent l'anglais, mais dedans, on a essayé de faire un peu plus large que que la géographie anglophone. Donc il y a un texte qui a été traduit de l'allemand. Il y a un texte brésilien d'un auteur brésilien, un géographe brésilien, qui écrit en anglais. Parce qu'on n'aurait pas du tout eu les moyens de faire une traduction du portugais. On n'avait pas la possibilité technique. Du coup, c'est quand même un auteur brésilien, mais qui écrit en anglais, enfin, qui écrivait de temps en temps en anglais. Donc, on a pris un de ses textes. Il y a aussi des textes d'une géographe sud-africaine, donc elle écrit aussi en anglais, mais cela dit, elle est sud-africaine. Donc en fait, la réalité du choix des textes n'est pas que de la géographie anglophone. Donc en fait, le choix s'est fait par intérêt. On a assez peu. On n'a pas cherché en fait à faire une sorte de. À figer en fait ce que pourrait être la géographie critique avec de grands auteurs, même si, bon, David Harvey est présent. Donc c'est le géographe peut-être le plus connu de la géographie radicale. On a aussi pensé à Neil Smith, qui est un géographe qui travaille sur la gentrification, qui vraiment est très important, qui n'avait jamais été traduit jusqu'à présent et qui est quand même très utilisé. Son texte sur la gentrification n'avait pas été traduit, donc on a essayé de le faire. Mais on a aussi pris d'autres textes qui sont avec des auteurs qui ne sont pas nécessairement connus ou qui ne sont pas des stars de la géographie. De la géographie. On a, par exemple, il y a un texte de géographie féministe d'une géographe qui n'est pas particulièrement connue, mais son texte nous a beaucoup intéressés, donc on a essayé de le garder, donc je vous en reparlerai après. Alors, du coup, peut-être que je vais vous dire en quelques mots aussi ce que c'est que la géographie critique et la géographie radicale, et s'il y a une différence. Donc, moi, je travaille précisément dessus pour ma thèse. Disons que techniquement, dans ce qu'on a un peu écrit dans l'introduction avec Mathieu, c'est que les termes de géographie radicale, enfin le terme de géographie radicale, il est né véritablement aux États-Unis à la fin des années 60, autour d'une revue qui s'appelle Antipode, Antipodie, si on dit les choses avec l'accent. C'est un des géographes qui était très engagé, notamment contre la guerre du Vietnam. Pour les mouvements civiques, parce que c'était en plein dans la période des mouvements des Noirs américains. Qui se sont regroupés. Au début, ils n'avaient pas forcément de ligne directrice très claire, même s'il y avait un certain nombre de marxistes. Progressivement, c'est plutôt la ligne marxiste qui s'est imposée à Antipodi. Voilà. Donc la géographie radicale, elle a cette origine-là. Ensuite, dans le monde anglophone, la géographie critique, elle a succédé à la géographie radicale. C'est un élargissement, c'est-à-dire qu'en fait, ont été pris en compte aussi la géographie féministe, la géographie postcoloniale, une variété de géographies engagées. Cela dit, le terme de géographie critique, il a été employé, moi, c'est ce que j'ai un peu cherché ailleurs avant, par exemple au Brésil, où il a été déjà, où il a fait un peu l'objet d'une sorte de renouvellement de la géographie en 1978, conférence des géographes brésiliens à Fortaleza. Et puis il avait été aussi employé en France, dans une certaine mesure, dans les revues des années 70, notamment par exemple une revue qui s'appelle Espace-Temps, qui existe toujours, et qui utilisait aussi le terme de géographie critique, mais pas forcément exactement dans le même sens que dans le sens anglophone. C'était moins un engagement qu'une rupture avec la géographie classique, qu'ils estimaient être classique à l'époque. Voilà. Donc, ces deux termes, ils sont quand même imposés, il faut bien le dire, par la géographie anglophone, et notamment par, effectivement, des grandes figures comme David Harvey ou Neil Smith. Mais la géographie critique, par exemple, elle s'est aussi un peu plus imposée dans le monde de la géographie, plutôt par des institutions. Donc un groupe de géographie critique internationale qui est né en 1995 et un forum en ligne de géographie critique qui existe, auquel on peut s'inscrire et qui regroupe les informations sur la géographie critique. Donc voilà à peu près les termes, mais c'est vrai que les deux termes sont assez flous. On va dire que la géographie radicale, c'est plus clair que la géographie critique, parce que la géographie critique est très vaste, qui a plusieurs significations dans différents lieux. Et qu'elle se veut être une géographie, si je devais synthétiser les choses, une géographie qui cherche aussi à transformer le monde qu'elle décrit. Si on peut donner une définition simple, qui cherche à transformer la réalité qu'elle observe Donc, dans le cadre urbain, ça consiste, par exemple, à être, dans certains cas, proche des mouvements sociaux urbains. Dans certains cas, aussi préparer des cartes, faire de la cartographie critique. Donc, il y a toute une palette. Et pour ma thèse, moi, j'ai décidé de suivre la géographie critique, pas en partant forcément des grandes définitions, mais justement de suivre des groupes, donc un groupe au Brésil, un groupe en Allemagne et un groupe international qui font de la géographie critique urbaine, enfin, ils font tous de la géographie critique urbaine, et j'essaye de les suivre. Et de voir finalement concrètement ce qui fait la différence entre la géographie conventionnelle et la géographie critique. Voilà. Donc, voilà pour la définition de la géographie, une première définition de la géographie radicale et de la géographie critique. Alors aussi, quel était l'intérêt, enfin on aurait pu faire quelque chose sur la géographie critique ou la géographie radicale en général. On a quand même, c'est quand même intéressé à la ville parce que y a une réalité, c'est que l'essentiel quand même des travaux de géographie radicale ou des géographies critiques sont quand même centrés sur la ville, même si il y a une géographie rurale radicale et puis assez ancienne, hein, par exemple, comme je pense par exemple aux géographes brésiliens, les géographes qui ont défendu les mouvements sans terre, par exemple au Brésil, c'est assez ancien. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la ville, elle occupe une place particulière, parce que notre hypothèse aussi, c'est que la ville, c'est sans doute le lieu privilégié en fait du capitalisme actuel, avec des formes particulières, même si il y a certaines théories justement qui tendent à montrer que actuellement l'ensemble de l'espace planétaire serait en quelque sorte maintenant au service des lieux urbains comme centre du capitalisme. Donc ce serait de penser en fait les espaces ruraux comme des espaces au service de la ville néolibérale, par exemple. Donc ça, c'est des recherches qui existent actuellement, et puis des théories qui rejoignent aussi un des penseurs très importants auquel on fait souvent référence, et qui est Henri Lefebvre, hein, à la fois le droit à la ville, mais aussi la révolution urbaine, l'urbanisation planétaire. Tout ça, c'est une référence vraiment, enfin, c'est une référence incontournable de tous les géographes critiques et radicaux. Donc, la ville, c'est un lieu privilégié de cette, à la fois de l'accumulation du capital, de la reconfiguration du capital et des mouvements sociaux et effectivement des résistances. Donc, ce qu'on a essayé aussi de montrer, c'est que l'intérêt, je pense, de la géographie critique et radicale, c'est aussi d'essayer de déconstruire certains discours à la mode. Et des discours qui sont un peu pris comme maintenant relativement naturels. Donc je pense à la ville créative, à la ville compétitive, ville globale, etc., etc. Donc si on prend quasiment chacun des textes qui sont présentés dans cet ouvrage, en fait, ils remettent en cause enfin, un peu chacun de ces termes. Par exemple, je vais prendre quelques exemples. Il y a un texte assez important de Jennifer Robinson sur les villes du Sud. Jennifer Robinson, donc elle est sud-africaine. Elle est venue étudier en Grande-Bretagne. Et en fait, elle a vite constaté que le modèle dominant de la ville, enfin les modèles d'interprétation de la ville, ce sont toujours des modèles du Nord, avec par exemple des grandes villes de type Chicago, qui sont des grands modèles, y compris bon, les villes européennes, ensuite le modèle de Los Angeles, qui était un des grands modèles aussi d'interprétation de la ville. Et elle dit qu'en fait, tant qu'on a des modèles du Nord, forcément les villes africaines, notamment, qu'elle connaît à travers les villes sud-africaines, seront forcément à la traîne, forcément sous-développées, forcément à la fin du classement, si on considère que le modèle, c'est les villes du Nord. Donc ça, c'est de la logique, et elle essaye de renverser ça en parlant de villes. En fait, elle considère qu'il faut parler de villes ordinaires. Et donc, ça, c'est son texte c'est l'introduction de son livre qui s'appelle Ordinary Cities, donc les villes ordinaires. Donc là, ce qu'on remet en cause, déjà, c'est le modèle d'interprétation de la ville du Nord. La grille qui serait toujours la même et qui ferait qu'à chaque fois, les villes du Sud sont toujours forcément à la traîne et moins développées, moins compétitives, etc., que les villes du Nord. Un autre discours, par exemple, ça peut être un autre discours qui est remis en cause, c'est la ville multiculturelle. Alors, pas en tant que. Pas en tant que la ville multiculturelle existe et qu'elle peut être positive. Ça, c'est un texte de Stéphane Kipfer et de Kanishka Gonevardena qui travaillent sur Toronto et qui ont essayé de nous montrer comment, en fait, la municipalité ou les autorités essayent de récupérer l'image de ville culturelle pour en faire une sorte de promotion publicitaire qui s'éloigne un petit peu de ce qu'ont été, par exemple, les mouvements de lutte, de revendication de certaines minorités. En fait, bref, pour faire quelque chose d'assez dépolitisé de quelque chose qui était politisé à la base. Voilà. Donc, c'est la question de la politisation des luttes raciales, aussi, ce qu'on peut dire. Il y a évidemment aussi d'autres discours qui sont analysés, par exemple le discours de la ville entrepreneuriale, le discours de la ville compétitive. Et en fait, c'est analysé par exemple par un texte assez intéressant. D'Eric Swingedous, Franck Mullert et Arantxa Rodriguez, qui sont des trois chercheurs qui ont essayé de faire en fait un suivi des grands projets urbains dans les villes européennes et pour voir en fait le lien entre le privé et le public dans ces grands projets et en fait constater qu'en réalité l'État n'a pas du tout disparu, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. L'État a tendance à fournir les infrastructures et la base, et la base en fait pour l'investissement, notamment ensuite à travers des partenariats publics-privés, donc de ces grands projets. Donc l'État en fait n'a pas complètement disparu dans les grands projets, il est toujours là. Simplement, il fournit la base. Et ce que montre par exemple ce texte très intéressant, c'est que dans une certaine mesure, les grandes dépenses sont faites par l'État. Et le retour sur investissement, par contre, c'est un peu la socialisation des pertes et pour le coup, la privatisation des profits sont faits par les grandes entreprises. Alors, quelque chose qu'on observe très bien dans tous les grands projets actuels, mais qui avait déjà été montré au début des années 2000. Et en plus, ce texte est à mettre en écho avec le texte un peu dans la généalogie des pensées, du texte de David Harvey aussi qu'on a traduit sur la ville entrepreneuriale. Effectivement, la ville, les autorités municipales et l'État aussi, dans une certaine mesure, sont devenus des outils de développement. Et souvent, les entreprises, maintenant, fonctionnent en commun. Donc voilà, il y a un autre exemple de discours à déconstruire. Il y a aussi, là encore, un autre texte, par exemple, sur la ville écologique et sur l'écologie politique urbaine. Qui montre comment, en fait, très souvent, là encore, les municipalités parviennent à se réapproprier des discours qui sont a priori progressistes, par exemple, là, en l'occurrence, sur l'écologie. Alors, sans nier que Toronto a fait beaucoup de progrès sur l'écologie, on constate quand même que c'est, là encore, souvent, les discours les plus radicaux sont récupérés au sein des instances municipales. Et finalement, ça peut être productif, mais pas toujours. Donc voilà des exemples intéressants en fait, de discours qui sont renversés par ces textes. Alors ils sont parfois un peu techniques, mais c'est aussi pour ça qu'on a fait des introductions et que chaque texte est introduit pour pouvoir donner un peu une explication. Et ça, c'est quelque chose que je vais ajouter aussi et qui me semble intéressant, c'est bon, à qui est destiné cet ouvrage? Alors il est vrai qu'il est destiné beaucoup aux étudiants. Parce que c'est des textes universitaires et parfois, je dois dire que quand on les a traduits, on s'est rendu compte aussi de ce qui pouvait apparaître, notamment en anglais. Souvent, j'abordais un texte, un article anglais, je me disais, ah, mais c'est vraiment super, c'est beaucoup plus problématisé, etc. Bon, au final, quand on les traduit dans le détail, on se rend compte qu'il y a un peu, enfin, pour certains articles, il y a beaucoup de répétitions, c'est pas toujours bien écrit, les transitions sont pas excessivement claires, les exemples sont pas toujours très bien développés. Finalement, on se rend compte que la géographie française a aussi quand même ses intérêts et ses qualités, y compris descriptives, de qualité rédactionnelle. Donc, bon, là, ça c'était un. première idée. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à travers tous ces textes, il est souvent apparu justement la nécessité quand même que ces textes soient connus au-delà du public étudiant. Parce que pour, à mon avis, un public militant, par exemple, ça peut être justement des formes de contre-arguments, de donner accès effectivement, à des réflexions qui ont cours dans le monde anglophone depuis plus longtemps, ou y compris par exemple au Brésil sur la question de l'urbanisme par le bas. C'est un texte qui est de Marcelo López de Sousa qui se dit géographe libertaire. Donc ça, c'est des outils en fait pour penser contre les fameux grands discours qui sont maintenant récupérés. Et pour donner une petite anecdote, j'ai un ami qui est dans un parti dit de gauche et qui m'a dit, c'est au moment où le livre est sorti, c'est fou, pour l'élection municipale, on a utilisé tous les termes ville compétitive, ça y était, ville créative, ça y était, et dans les programmes municipaux, évidemment, tout y était dans l'État. Il disait, c'est dommage que, effectivement, même, il réalisait que même par méconnaissance, en fait, ils utilisaient un petit peu les termes, ils les reprenaient comme ça sans trop se poser de questions. Et donc, ils constataient que tous les termes, effectivement, étaient repris dans tous les programmes municipaux, effectivement. Et en termes militants aussi, mais ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui a élaboré, parce que j'y réfléchis en ce moment aussi un petit peu. Ce qui m'intéresse aussi, à travers cette question de la géographie critique, c'est de savoir aussi à quelle échelle les mouvements sociaux peuvent être efficaces. Et ça, c'est quelque chose alors, qui revient. Moi, j'ai amené ça, parce que je l'ai lu, donc j'ai lu à nos amis récemment, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu. C'est excessivement géographique. Il y a une analyse vraiment très géographique des lieux. Alors évidemment, eux, ils défendent une vision plutôt locale à travers la commune, ce qu'ils appellent la commune de la contestation. Il y a quelques jours, j'ai assisté à une conférence de Frédéric Lordon sur la Grèce, où Frédéric Lordon justement se posait un petit peu enfin proposer une alternative en disant que en réalité ce qui était souvent impensé, y compris donc par exemple par le comité invisible, c'était l'État, qui était quand même une des, y compris on le voit à travers la Grèce, hein, une des échelles sur lesquelles on est susceptible d'agir. Donc susceptible, ça c'est une question difficile à poser, mais en tout cas c'est peut-être une échelle qui a été qui ne faut pas oublier. Et très souvent, en fait, dans les textes qui sont utilisés ici, je pense qu'il y a la question effectivement de l'échelle des mouvements de résistance, y compris à travers les nouvelles institutions, notamment les institutions métropolitaines. Alors, à Paris, nous, on est vraiment confrontés à l'existence d'une nouvelle échelle en train de se former, qui est le Grand Paris, avec une quasi-absence de représentation citoyenne. Et donc les capacités quand même à lier des villes qui sont très éloignées géographiquement, et surtout en fait un système métropolitain qui est en train de se mettre en place, complètement incompréhensible, donc personne s'y intéresse, et en quelque sorte à juste titre. Donc de savoir comment on arrive aussi à l'échelle de la ville à inventer aussi des résistances, puisque maintenant l'échelle métropolitaine est une échelle un peu difficile à appréhender. Donc ça, c'est une question qui revient beaucoup. Et il y a aussi un élément important, c'est que peut-être que vous avez lu, par exemple, récemment, des auteurs comme Christophe Guillouis, qui travaille sur justement la pauvreté, les classes populaires, etc. Donc en disant que finalement les classes populaires seraient plutôt dans le rural ou dans le périurbain. Mais en fait, bon, moi, je vais le dire clairement, je ne suis pas du tout dans la perspective de Guillouis. Je trouve qu'il assigne en fait à des types de populations des espaces. Et donc, dans ce cas-là, on a une forme de déterminisme, ce qu'on appelle en géographie un déterminisme, c'est-à-dire qu'un espace va forcément produire tel type de population ou tel type de phénomène. Et je pense qu'en fait, d'une certaine manière, beaucoup de ces textes essayent d'aller justement contre le déterminisme de l'espace. Quand on regarde tous ces textes, ils nous montrent que, y compris le capitalisme, est en perpétuelle reconfiguration. C'est pour ça que la gentrification existe d'une certaine manière, c'est parce qu'en fait, il y a ce qu'explique Neil Smith, un différentiel de rente foncière qui fait que on investit si c'est rentable, en fait. Et quand tu as un quartier dégradé, ça devient, au bout d'un moment, intéressant de réinvestir dedans parce que le foncier coûte pas cher et que ensuite la construction, la réhabilitation est faisable. Donc en fait, la ville, elle est marquée aussi par un perpétuel réaménagement. Et en fait, les habitants ne sont pas simplement des gens qui vont être figés par l'espace, ils vont l'utiliser. Et par exemple, le texte de la géographe féministe, qui a essayé de montrer en fait l'évolution des femmes pauvres, noires et blanches dans l'espace, dans des quartiers pauvres, elle essaye de montrer justement que contrairement à ce qu'on peut... À ce qu'on peut imaginer, l'espace peut être aussi une ressource pour les gens qui sont discriminés. Et ce n'est pas juste, c'est pas simplement des espaces subis. Il y a des ressources et des potentialités, des solidarités qui existent à l'échelle locale. Et parfois, le fait, par exemple, d'être, en fait, dans le cas présent, Mélissa Gilbert constate que dans cette ville près de Boston, à Clark, les femmes noires, en fait, sont confinées spatialement, c'est-à-dire qu'elles bougent très peu. Donc, en fait, souvent, l'équation qui a été faite, c'est de dire que quand les femmes sont emprisonnées spatialement, elles sont dominées, et c'est parce qu'elles ne peuvent pas bouger. Et dans les grandes villes, on a constaté, par contre, que les femmes noires, par exemple, bougeaient davantage, parce que souvent, elles faisaient du ménage à l'autre bout de la ville. Par exemple, donc le confinement spatial fonctionnait pas exactement de la même manière. Mais inversement, à Clark, les femmes noires sont très confinées spatialement, c'est-à-dire qu'elles sont souvent dans un tout petit espace. Mais ce que montre Mélissa Gilbert, c'est que c'est pas que une question en fait, une question de domination. C'est lié à la ségrégation spatiale de la ville qui était très forte. Mais c'est aussi lié au fait que ces femmes trouvent des solutions de solidarité, de garde d'enfants à proximité de chez elles, de locations par contact, parce que généralement elles n'arrivent pas à avoir des locations par annonce, donc elles ont des locations par contact, ce qui fait qu'en fait elles ont un espace de vie qui est peut-être plus restreint, mais qui est aussi le fruit des solidarités. Donc quand on dit par exemple que les. Vous voyez dans la réflexion par exemple de Guy Louis de dire les pauvres sont à tel endroit, ils seront forcément à tel endroit et ils sont bloqués. C'est pas toujours vrai. On peut pas faire des. Enfin, moi, j'ai toujours du mal avec les réflexions qui disent que un espace égale un type de population égale un type de mode de vie. C'est toujours, y a toujours une diversité de cas selon les lieux, selon l'histoire des lieux. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que le livre montre. Alors, je reconnais que ce livre est parfois, bon, c'est des articles universitaires avec le avec. Les défauts que ça présente, c'est-à-dire que certains articles sont parfois un peu complexes, un peu redondants, etc. Donc on a fait un gros travail, on a essayé de parfois réécrire certaines parties, ou enfin pas réécrire, mais en tout cas d'alléger certaines parties, de couper certaines parties quand il y avait trop de répétitions. Cela dit, effectivement, c'est entre le manuel étudiant et en même temps, il y a des pistes, à mon avis, très intéressantes. Peut-être qu'il faudrait presque réélaborer dessus ou repasser dessus en écrivant quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est évident et si certains d'entre vous l'ont lu et s'ils en ont tiré des choses intéressantes et peut-être pas d'ailleurs les mêmes que les miennes. Donc voilà, je crois que c'était à peu près la présentation que je voulais faire déjà de l'ouvrage.
Moi, j'avais une question. Vous avez évoqué un questionnement par rapport aux mouvements sociaux, est-ce que vous parlez des luttes urbaines ou
Oui, oui,
c'est par
oui.
rapport à quoi?
Oui, plutôt. Oui, les luttes urbaines qui sont. Oui, tout à fait, ouais. Parce que c'est le cœur un peu de l'analyse. Il y a beaucoup de. Enfin, la plupart, en fait, des auteurs, ils travaillent indirectement sur des luttes urbaines. C'est souvent le point d'entrée, d'ailleurs. Hein, ça leur permet d'entrer sur un problème. Enfin, sauf ceux qui font vraiment de la théorie, par exemple, un peu économique, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais souvent. Et même Nell Smith, par exemple, qui a travaillé sur la gentrification et qui a fait la fameuse théorie de la rente, du différentiel de rente foncière, il a toujours travaillé avec les mouvements des luttes urbaines. Et il y a un texte, donc le fameux texte de Marcelo López de Sousa, qui montre comment justement les mouvements des favelas, c'est selon lui de l'urbanisme par le bas. Et l'urbanisme n'est pas juste une action de l'État, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, c'est vrai que le problème, et c'est un peu la critique qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a assez peu de géographes qui sont concrètement entre les deux. Cela dit, c'est pas toujours facile, parce que pour l'avoir un peu vécu, moi j'ai un peu milité à Paris, luttes urbaines, mais je l'ai pas fait en tant que géographe, parce que ça, à chaque fois ça coince. Cela dit, après, je me suis rendu compte que les compétences des géographes étaient quand même parfois utiles par moment, mais le passage en fait entre universitaire et luttes urbaines, c'est toujours hyper compliqué. Il vaut mieux, à mon avis, choisir soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, soit j'étudie le mouvement, soit je participe, et quand je peux, j'utilise mes compétences de géographe, parce qu'en fait, l'entre-deux est vraiment très très dur à trouver. Alors, il y a peut-être. C'est d'ailleurs pas forcément pour soi, hein, c'est plutôt pour le mouvement. C'est-à-dire que des fois, ça peut être gênant de savoir qu'on a étudié, par exemple, ou de pas savoir ce que va être. Sur quoi va déboucher éventuellement l'étude. Donc moi j'ai préféré faire ma recherche sur la géographie radicale et éventuellement militer. Mais je me rends compte qu'en fait les connaissances de la géographie critique pour les luttes urbaines, c'est intéressant en fait. Et souvent d'ailleurs, enfin je sais pas si c'est le cas à Toulouse, mais à Paris il y a une je sens qu'il y a un intérêt véritablement pour la géographie critique et radicale de la part des mouvements. C'est-à-dire que je pense qu'une partie des gens qui peuvent acheter des bouquins de David Harvey, ou, etc., c'est justement une partie des militants, en fait, qui cherchent aussi à comprendre certains phénomènes. Voilà, mais après, la difficulté, c'est effectivement d'articuler les deux. Mais justement, dans ma thèse, j'essaye de voir comment en fait, concrètement, comment chacun fait. Et généralement, il n'y a pas de réponse claire. Il y en a qui sont. Il y a une position qui consiste à dire, moi, je fais de la recherche. Le mieux que possible, je fournis les meilleurs arguments possibles, et après les militants font ce qu'ils veulent avec. Il y a d'autres personnes qui essayent d'être un peu à l'articulation des deux, en faisant de la recherche avec eux, pour eux, enfin voilà. Et puis il y a certaines personnes qui finalement, même à la limite, abandonnent quasiment l'université pour faire que du militantisme en fait à la fin. Il y a le cas en fait d'un. Un peu ancien, un des autres fondateurs avec David Harvey de la géographie radicale, c'est quelqu'un qui s'appelle William Bungy, qui a écrit un livre qui s'appelle Fitzgerald, une Geography of a Revolution. Et en fait, il était c'était à Détroit. Si vous tapez William Bungy, alors Bungy c'est Bunge, Détroit et Révolution, vous allez tomber sur un article du Monde diplomatique qui était très bien fait. Et qui expliquait comment ce géographe, en fait, a finalement, au bout d'un moment, abandonné les activités de l'université pour aider à faire des cartes pour les Noirs américains des ghettos et pour prouver qu'ils étaient discriminés. C'est-à-dire, par exemple, il a fait une cartographie des morsures de rats dans les années 70, une cartographie des maladies, par exemple, pour montrer, en fait, dans les ghettos, il y avait des vraies discriminations. Et lui, il a fini par arrêter, enfin, par quitter l'université. Bon, un peu poussé vers la sortie aussi, il faut bien le dire. Mais il a quitté l'université. Donc voilà, il y a plein d'articulations. Il y a plein d'articulations, par exemple, aussi au Brésil. Alors j'ai constaté qu'au Brésil, c'est assez spécial, parce qu'en fait, on pourrait penser que les Brésiliens sont très, très engagés, par exemple. Qu'ils ont une vraiment. Mais à l'université, est assez séparé. Cela dit, régulièrement, il y a des figures de l'université, par exemple, de la principale université de São Paulo. Là, actuellement, le mouvement des sans-toits, et pendant la Coupe du Monde, il y a eu des campements, il y a pas mal de choses. En fait, c'est un philosophe de l'université de São Paulo qui a plus ou moins lancé le mouvement. Et par ailleurs, moi, quand j'avais été sur place, je m'étais intéressée pas mal au mouvement qu'on appelle mouvement Passé Livré, qui était celui qui avait lancé plus. Enfin, oui, on peut le dire, lancé le grand mouvement contre les transports, la hausse du prix des transports. Il y a énormément de gens qui. À l'origine, venait de lycée et qui était à l'université de São Paulo. Donc, il y a quand même des liens. Et c'est vrai que moi, j'avais essayé de comprendre est-ce qu'ils utilisaient, par exemple, la géographie radicale. Alors, moyennement, mais par contre, ils utilisent tous Lefebvre, ils connaissent tous Harvey. Enfin, il est clair que c'est un outil, quoi. C'est un outil pour les mouvements. Pour moi, pour les mouvements sociaux, c'est un outil de réflexion. Mais bon, après, c'est vrai que les universitaires, chacun se positionne par rapport à son propre passif et sa propre envie, et il n'y a pas de règle générale en fait. Mais la plupart en fait, quand on regarde ce qui peut être intéressant, c'est de regarder aussi les déclarations d'intention. Et tous disent en fait qu'ils travaillent aussi pour les mouvements urbains, quoi. C'est-à-dire qu'un des critères, c'est d'essayer d'ouvrir aux mouvements urbains et de mettre un maximum d'informations à disposition. Alors après, il y a toujours, évidemment, comme à l'université, toujours des stratégies de carrière, des choses comme ça qui font que certains peuvent être considérés comme, comme ce qu'on appelle des marxistes de la chair ou enfin des gens qui vivent qui sont très radicaux. Et par exemple quelqu'un comme David Harvey qui peut parfois être un peu critiqué, mais c'est quelqu'un qui fait aussi des vidéos de diffusion de la lecture du Capital de Marx, qui fait souvent le tour du monde pour essayer de faire des conférences et qui a à mon avis un impact. Et je m'étais justement demandé enfin je me suis demandé dans ma thèse ce qui avait le plus d'impact, c'est-à-dire est-ce que c'est d'être universitaire dans les mouvements sociaux. Et j'ai réfléchi à quelque chose, et justement je vous parlais de la prof brésilienne qui a écrit des manuels pour le secondaire, et ça a un impact énorme, parce que du coup la diffusion de masse d'un manuel scolaire, ça a plus d'impact des fois que d'être dans un squat. Je le dis, enfin pas du tout avec mépris parce que je l'ai fait, que d'être dans un squat, dans un endroit où finalement il va y avoir une portée assez limitée. Par contre, un manuel scolaire où tous les gamins apprennent ce que c'est que le différentiel de rente foncière et comprennent ce que c'est que la spéculation immobilière dans une vision marxiste, ça fait réfléchir. Et du coup, ces gamins qui ont créé le mouvement Passé Livré, ils étaient tous l'âge de lycéens, donc il y a quand même une prise de conscience forte, quoi. Et même si au Brésil, par ailleurs, il y a un vrai problème d'éducation, d'inégalité face à l'éducation, et c'est un problème, mais cela dit, c'est passé auprès de gamins qui ont 18 ans et qui connaissent ces références-là. Et je me suis dit, au début, c'est vrai que cette prof brésilienne qui était tout le temps débordée avec ses articles, etc., je me disais, c'est vrai, elle pourrait quand même aller aider les mouvements sociaux directement, etc. Et je me suis dit qu'en fait, bah, finalement, le fait d'écrire des manuels, par exemple, pour le secondaire, bah, c'était quand même des fois plus efficace. Mais enfin, tout ça reste ouvert. J'espère que quand je vais soutenir ma thèse, normalement je pense qu'elle sera là, donc j'espère qu'on pourra avoir ce débat aussi. J'essaierai peut-être d'organiser un peu une journée, peut-être de la faire venir, je diffuserai aussi l'information, mais c'est voilà la question de savoir qu'est-ce qui est le plus utile et le plus efficace, c'est pas si tranché que ça en fait. Pas si facile à dire. Voilà. L'idée de sortir ce livre, c'est un peu comme on dit en... avec des mots un peu compliqués, mais que c'est un peu performatif, quoi. C'est essayer aussi de faire en sorte, parce qu'il y a une difficulté parfois de la langue, de faire en sorte que les textes ils soient déjà accessibles. La question du label, bon, bah, on a repris critique parce qu'on trouvait que c'était quand même pratique et que justement c'était à la fois la géographie radicale, la géographie féministe postcoloniale, et que ça permettait de créer quand même un point. Enfin, et c'est vrai que de plus en plus, d'après ce que j'ai compris, je sais qu'on m'a dit des anciennes élèves, parce que moi je suis prof en prépa maintenant, et donc j'ai des élèves maintenant qui sont en master, etc., qui me disent « on a eu un cours de géographie sur la géographie critique ». Mais je pense qu'en fait, avant, il y a eu aussi plusieurs événements qui ont un peu créé ce label. Alors moi, en même temps, le label m'ennuie, mais en même temps, il est nécessaire, je pense, pour essayer d'arriver à faire en sorte que les gens s'intéressent à des courants qui passe un peu inaperçu dans la géographie. Mais je pense, je dois dire que ça fait longtemps que je ne me suis pas intéressée à... Enfin, c'est pas que je m'y intéresse pas, mais c'est vrai que la production universitaire française, elle se fait plus par objet, en fait, ou elle se fait plus par spécialité. Et alors, il y a aussi un autre élément, c'est que... Alors, je ne veux pas paraître trop parisiano-centré, mais d'ailleurs, ce n'est pas parisien, mais il y a une revue en ligne aussi qui s'appelle Justice Spatiale, qui est entièrement gratuite et bilingue. Donc, il y a des fois des textes qui sont traduits. Ça a été lancé en partie à Nanterre, mais il y a d'autres groupes. Il y a des géographes de Grenoble, de Bordeaux, etc. Donc ça, Justice Spatiale, c'est entièrement gratuit, c'est très intéressant. Et il y a vraiment des trucs très pointus qui sortent. Et des appels à communication d'ailleurs, si ça peut intéresser certains, par exemple sur l'agriculture, et puis il y a quelque chose aussi sur les peuples autochtones, là par exemple le prochain c'est sur comment les formes de résistance, je crois, sur des peuples autochtones. Voilà, et À Toulouse, je ne sais pas trop. Faudrait que je dois dire que là, comme ça, c'est vrai que par exemple, dans le groupe, il n'y a pas de géographe toulousain, mais on est tous un peu, on est tous assez jeunes en fait. Enfin, on est quand même assez jeunes et c'est plutôt là, c'est plutôt des étudiants, des doctorants, on a essayé de lancer le mouvement, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas eu de contact, par exemple, effectivement, à Toulouse, en dehors de la librairie, il faut bien dire ce qui est. On n'a pas été contacté, je pense, par les géographes. Peut-être que ça va venir. Et puis peut-être que aussi, je vais retourner un peu la chose, hein, on aurait aussi intérêt à s'intéresser davantage à ce qui est produit aussi comme géographie. En fait, je crois que je me trompe quand même, parce que si je réfléchis, je crois qu'il y a quand même des choses qui étaient des travaux qui me semblaient assez intéressants à Toulouse, mais là, ça me revient pas, mais je sais qu'il y a des choses très intéressantes, mais par contre qui sont peut-être pas ciblées sur la géographie critique, par exemple. Oui, il y a une remarque. Oui, allez-y, allez-y. Enfin, après, comme je le dis, c'est pour ça que dans ma thèse, j'ai étudié des groupes et pas des personnes, parce qu'en fait, j'ai essayé de. Je veux pas dire que. Enfin, je veux pas me mettre en position de dire lui, c'est un géographe critique, lui, c'est un géographe radical, lui, il n'est pas critique, lui, il est. Parce que déjà, hein, je pense que personne ne l'est ad vitam aeternam, ou personne n'est. Par essence, un géographe critique ou un géographe radical, on peut vite changer. Déjà, c'est la première chose. Et puis, par ailleurs, je voulais pas mettre dans ma thèse, j'ai étudié des groupes, parce que je voulais pas me mettre dans la situation de dire lui s'en est, lui s'en est pas.
Il existe un courant dans la géographie critique, je ne sais pas si d'ailleurs c'est assez vaste pour parler de courant, mais qui s'intéresse particulièrement aux espaces de vie de la bourgeoisie. Enfin,
Alors, bah, c'est un défaut, effectivement. Alors, assez. Je crois pas assez, en fait. C'est-à-dire que en la sociologie, hein, il y a les fameux Passons Charlot qui ont fait ça. En géographie, je crois assez peu. Il y a eu beaucoup de choses sur les gated communities, assez classiquement. Mais par contre, finalement, en fait, c'est un des problèmes d'ailleurs de la géographie critique, c'est de s'intéresser finalement toujours aux dominés. Hein, mais alors qu'en réalité, je ne sais plus avec qui j'en parlais d'ailleurs, qui disait qu'au bout d'un moment, en fait, ça servait plus à rien, qu'il fallait essayer plutôt de s'attaquer directement, donc pas forcément toujours aux classes populaires, mais peut-être aussi aux classes dominantes. Et c'est vrai qu'il faudrait que je cherche, et puis prendrai quelques mails, mais il faudrait faire des recherches en fait dans les principales revues, mais en tout cas comme ça d'emblée, par exemple, autant je peux connaître des spécialistes sur tel ou tel thème, autant là comme ça, non, ça me vient pas, donc ça veut dire que c'est quand même pas si évident que ça. Et effectivement, c'est dommage parce que on s'intéresse beaucoup plus ce qui est bien aussi, hein, aux classes dominées, mais en revanche, la manière dont il y a une accumulation par exemple, du capital aux mains de quelques-uns, c'est assez peu étudié concrètement et géographiquement. Il y a souvent c'est plus des processus. Par exemple, je pense aux Brésiliens, ils vont plutôt étudier, par exemple, la financiarisation. Alors, par exemple, il y avait un. Moi, j'avais été sur un terrain comme ça. Il y avait un étudiant brésilien qui m'avait amené. Parce que, bon, São Paulo, c'est complètement délirant. Hein. Donc, ils étaient en train de construire un énorme centre commercial avec des immeubles de bureaux et de luxe sur une ancienne favela. Parce qu'évidemment, ils avaient réussi à récupérer les terrains pour pas cher, puisque en plus il y a tout un problème de droit de propriété, c'est pas très clair, donc ils arrivent finalement à faire partir les gens assez facilement, à coup de rachat progressif et par petits bouts. Et souvent c'est un peu la confrontation des deux, quoi. C'est-à-dire dans certains lieux, alors par exemple au Brésil, c'est vrai que souvent les lieux finalement maintenant de la très grande bourgeoisie se superposent et sont quasiment au même endroit que des fois les lieux de la grande, très grande pauvreté, donc c'est d'autant plus criant, et donc ça permet de. Mais en France ou même en Allemagne, c'est pas sûr du tout. Non. S'il y a des choses que le livre t'a semblé apporter justement pour la pratique militante, si ça t'a. Ce qui a pu être utile dans ce que tu as lu, mais c'est pas.
Pratique militante, de toute façon, il y a une réflexion sur le fonctionnement
qui est apportée dès le dernier déjà à la base et qui du coup est reprise un peu dans différentes, sous différents niveaux dans les différents articles et assez majeur dans une approche de la ville en termes de l'influence du capitalisme sur la ville. Tout ça, l'article d'Hervé qui a été choisi dans ce livre-là est très brave. Après, j'ai toujours un peu de... mal avec le fait que justement les sciences sociales critiques s'intéressent particulièrement aux dominés et en ce sens il y a une volonté d'aide et une volonté de sciences sociales de l'action, certes, mais en même temps, d'autant plus sur la question de l'urbanisme qui est un truc complètement en construction et en mutation, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi apporter des billes sur comment fonctionne la ville, y compris dans ces espaces encore les moins surveillés, les moins gérés, les moins... à tous ceux qui ensuite font de l'urbanisme, en fait, et produisent des structures qui, du coup, certes, on est tous acteurs dans la ville, voilà, ce dont on parlait tout à l'heure, mais pour autant, il y a quand même des urbanistes qui posent des structures matérielles, en fait, dans des villes, et pour moi, il y a toujours un peu ce double truc, en même temps, c'est très intéressant et très...
Oui, non, c'est sûr que c'est la question de savoir s'il faut tout le temps étudier les squatteurs les habitants des quartiers populaires ou etc. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut un peu poser problème. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment, enfin, en tout cas, j'étais en train d'essayer de réfléchir aussi à un texte sur ces questions, en lisant un petit peu sur ces questions d'échelle, d'efficacité, à quelle échelle on peut être efficace aussi. Ça, c'est quelque chose qui me semble revient beaucoup actuellement dans des littératures qui ne sont pas nécessairement géographiques. Et je me disais que j'essaierais de réfléchir à ça et de le mettre en ligne un jour sur... Parce que vraiment, quand j'ai lu À nos amis, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, ça, en fait, ce livre m'a à la fois intéressée et un peu énervée. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont lu plein de choses sur ce qu'on appelle en géographie le glocal, quoi. C'est-à-dire le local et l'international. Et par moments, ça ressemble pas mal à la littérature, finalement, assez dominante. Et y a des moments, je me demande dans quelle mesure c'est... Dans quelle mesure... voilà, bon, par exemple, Lordon, il dit, bah, en fait, si on laisse l'État, si on laisse l'État complètement... complètement au dominant, bah c'est pas avec nos trois communes ou nos trois territoires locaux qu'on va réussir à faire quelque chose. Bon, ça c'est vraiment des débats qui se posent, quoi. C'est à quelle échelle finalement on est efficace, on est le plus efficace, et à quelle échelle on est plus susceptible de transformer la réalité sociale qu'on dénonce. Bon, ça c'est une vaste question. Voilà. Et moi, je pensais justement, géographe, parce que je me disais, bon, ça ne va pas être juste l'État contre le local, par exemple, ou contre l'international. Mais je pense que selon, en fait, ce qui nous intéresse, peut-être qu'il y a, plutôt que de dire c'est soit tout local, soit tout national, il y a peut-être, selon les échelles, des choses à imaginer un peu différemment, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas, je pense à l'agriculture, des choses comme ça... On ne va pas dire que c'est national, par exemple, ça n'a aucun sens. Enfin ça peut être, il peut y avoir des politiques publiques, de subventions, etc. Mais peut-être qu'effectivement, là, il y a des choses à repenser à d'autres échelles. Et ce n'est pas forcément le national qui va tout régler. D'ailleurs, c'est déjà plutôt à l'échelle européenne, en fait, que ça se règle. Donc, le fait est que c'est assez différent. Mais bon, voilà, enfin, il y a peut-être... En gros, en ce moment, le débat me semble être un petit peu axé sur soit on maintient coûte que coûte le national, soit on maintient le local. Mais je pense que, justement, géographe, on peut peut-être essayer de jongler un peu plus avec les échelles et de voir quels sont nos intérêts et à quelle échelle on peut être le plus productif et le plus efficace selon les thèmes. Donc, par exemple, je vois surtout quand se mettent en place, par exemple, des structures comme le Grand Paris... c'est vrai qu'il faut arriver à structurer quand même quelque chose qui très clairement qui dépasse l'échelon ultra local, parce qu'en fait on est en train de se faire complètement enfumer, quoi. Enfin, moi je suis un peu le dossier, c'est incompréhensible pour le grand public. Alors je sais pas forcément d'ailleurs est-ce que c'est important que ce soit entièrement compris, je ne sais pas, mais le fait est que la structure d'ensemble, elle échappe complètement à la majorité, y compris des militants, par exemple. Parce que, du coup, l'échelle du Grand Paris, elle est impalpable, que la structure mise en place, elle est incompréhensible. Donc, qu'est-ce qu'on fait techniquement pour faire quelque chose, quoi. Et là, je pense que, pour le coup, le lien avec l'université, ça peut être utile. Parce qu'il y a des... Il y a des chercheurs qui se prennent la tête à lire les pavés ou à comprendre comment fonctionne la société du Grand Paris par rapport à la métropole du Grand Paris, par exemple. Et ça, c'est vrai que d'emblée, peut-être que les militants, ils peuvent tout à fait le faire et le comprendre, et des fois mieux le gérer d'ailleurs que certains universitaires, mais par moment, il faut aussi plonger dans des termes techniques ou comprendre comment ça fonctionne. Et c'est là que ça peut être, à mon avis, intéressant aussi, l'articulation entre l'université et... Université et militantisme.
Alors après, ouais, par rapport à la question du Grand Paris, je pense que c'est quand même... Enfin, de toute façon, c'est une gestion autoritaire de l'État, donc une intervention contre le Grand Paris. De toute façon, même s'il y a une intervention qui peut marcher contre le Grand Paris, les fruits du Grand Paris sont déjà là avec la gentrification. Donc finalement c'est d'abord l'économie qui le fait, puis le politique qui se met
Oui, mais là, quoi. C'est vrai que comme le montre justement le texte, enfin certains textes, vraiment par exemple justement pour favoriser, y compris la gentrification, etc., et pour favoriser, mais parfois, je dois dire que parfois ça peut être bien, hein, les désenclavements par les transports, je dois dire que quand on habite à Clichy, je crois qu'on peut être content d'arriver à un métro. Hein. Mais cela dit, c'est fourni et payé par l'État, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ensuite, il va y avoir un rayon où les entreprises vont pouvoir s'installer, mais le paiement, c'est clair que c'est l'État qui finance, pour que l'activité se fixe. C'est ce que, à un moment donné, David Harvey disait, il appelle ça le culte du cargo capitaliste. Le culte du cargo, ça consiste à, en fait, c'est dans les îles polynésiennes, et certaines, on avait observé que certaines populations, en fait, essayaient d'imiter l'appel radio, je crois, du cargo pour faire venir des marchandises. Ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, évidemment, mais enfin, cela dit, David Harvey dit qu'en fait, souvent, les autorités font la même chose, c'est-à-dire qu'ils font le culte du cargo capitaliste. Il faut un aéroport pour faire venir l'activité et la croissance, donc on va construire l'aéroport et on va vraiment croiser les doigts très fort pour que la croissance vienne avec, et l'emploi vienne avec, et les entreprises viennent avec. Donc en fait, on fournit les infrastructures, c'est-à-dire que la puissance publique paie les infrastructures pour que l'activité se vienne. Et donc là, ça dépasse, c'est pas simplement l'économie qui précède le mouvement, c'est l'État qui a tendance à enclencher le mouvement. Voilà.